Donc, bienvenue de nouveau pour cette petite session sur NoSQL. Merci à nos sponsors. Au programme, Antoine, ici présent d'Alchemix, a eu la gentillesse de bien vouloir nous présenter son activité et son usage des bases NoSQL, parce qu'il en a essayé plein et il en utilise plein, donc c'est intéressant. Il a à peu près tout fait. Et puis après, je vais vous parler de deux, trois trucs dans le temps qui me restera. Voilà, un peu d'actualité NoSQL, parler des tables et de Cassandra en mode géodistribué. Et je vais laisser la main à Antoine, si on peut switcher sur l'autre pupitre, s'il vous plaît. Et oui.
Allô, allô. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Oui. Donc je me présente Antoine Perrin. Je suis cofondateur et CTO d'Alchemix, ex-chef Jérôme. Une start-up spécialisée dans le traitement de données pour la grande distribution et les usages marketing. Donc tout d'abord, merci à Azure et à Thomas de m'inviter pour vous raconter un peu ma vie. En l'occurrence, aujourd'hui, il va s'agir de vous expliquer un peu ce qu'on fait chez Alchemix en termes de business, en termes d'architecture technologique, de faire un petit tour sur les bases NoSQL, les différents types et finalement les cas d'utilisation que nous avons eu de ces technologies. Donc aujourd'hui, le problème qu'Alchemix cherche à résoudre, c'est arriver à faire communiquer les acteurs de la grande consommation qui ont un problème, c'est qu'ils n'arrivent pas du coup à échanger entre eux, échanger de la donnée, échanger des produits, échanger des utilisateurs. Ces gens ont les mêmes produits, même utilisateurs, mais n'ont pas de langage commun. Et nous, en fait, ce qu'on vient faire, c'est construire des ponts et permettre ces échanges. Un exemple très concret d'un cas d'application, je pense que vous connaissez tous le site de recettes Marmiton, qui est le numéro 1 en France. En face de chacune des recettes, on va venir proposer un petit widget qui est une extension en fait, d'un site marchand qui vous permet d'acheter directement les produits correspondant aux ingrédients de la recette en temps réel avec les disponibilités et les bons prix. L'utilisateur peut changer de magasin, changer de produit. Donc ça, c'est en fait un échange de visibilité entre un site média qui a beaucoup de trafic et la grande distribution qui a des produits. En gros, on apporte du chiffre d'affaires et du trafic à la grande distribution, on apporte de la visibilité aux marques et c'est un cercle vertueux. Le sous-jacent de ça, c'est qu'on a construit une plateforme produit en fait, qui vient collecter, normaliser, enrichir la donnée des marques dans un système qui est une base de données produit qui est notre plateforme. Et on va aller distribuer cette donnée-là à tous les distributeurs. Et par-dessus ce sous-jacent un petit peu de données très très qualitatives, on va venir construire un certain nombre d'applicatifs, que ce soit le petit widget d'extension de sites marchands sur les sites médias, des moteurs de recherche, de la substitution, des mises en avant de produits. Donc on vient créer un certain nombre d'applicatifs autour de la donnée produit. Concrètement, en termes techno, ce qu'il y a derrière, c'est une architecture orientée service, essentiellement des services écrits en Python. C'est pour ça que vous voyez un petit logo Python en haut à droite de chacune des cases. Ces services échangent des messages donc via un broker AppDynamics. On a trois services principaux. Le premier service, c'est celui tout en haut, c'est l'analytics. Concrètement, on récupère un grand nombre de données, on collecte un certain nombre d'événements depuis l'ensemble des applications, depuis notre plateforme. On va processer toute cette donnée avec le service HD Insight, donc c'est Hadoop as a service sur Azure. Et on va créer en fait des données agrégées dans Cassandra. Donc, je reviendrai là-dessus. Le deuxième service important, c'est ce que j'appelle Core, en fait, qui consiste en la base de données produits, de l'ensemble des produits en fait, des marques et de la grande distribution. Donc on va avoir une granularité très fine et beaucoup de relations entre tous ces produits. Du coup, on a choisi d'utiliser une technologie qui s'appelle Titan. Donc c'est le Titan là, qui porte un gros truc. C'est une base graph distribuée. Enfin, le dernier service important, c'est Merchandising, donc en bas, qui est en fait le frontal qui est exposé à l'ensemble des applications, qui a besoin de performance et principalement du cache, des vues matérialisées. Et c'est dans ce cadre-là qu'on utilise Couchbase. Et en plus de ça, on a des services un peu annexes qui servent un peu partout. Tout ce qui est ETL, traitement du langage et machine learning que vous voyez en bas à droite, qui en fait des services qui ne gèrent pas de la donnée de façon durable, mais qui vont échanger des messages avec l'ensemble des autres services. Et on a une couche de monitoring qui utilise Logstash et Elasticsearch. Donc si vous regardez cette slide, en fait, Vous voyez qu'il y a pas mal de NoSQL, hein, que ce soit Cassandra, du Hadoop, du Elasticsearch, des bases graphes ou Couchbase. Et je vais vous expliquer la raison de ces choix-là. Ce n'est pas quelque chose qui a été décidé dès le départ, mais c'est vraiment une évolution de la plateforme au fur et à mesure de l'augmentation des volumes, des besoins de performance et des besoins applicatifs tout simplement. Quand on en vient à considérer les NoSQL versus SQL, passer du paradigme des tables relationnelles à un modèle, à un autre type de base de données, principalement il y a des motivations qui sont la performance, la haute disponibilité, la capacité à partitionner vos données et à gérer des gros volumes. Donc c'est des caractéristiques qui sont listées là. Historiquement, la raison pour ça, c'est tout simplement parce que le nombre d'utilisateurs sur vos applications a augmenté. Là où il y a 10 ans, on avait 1000 utilisateurs quotidiens, maintenant on en a des millions pour la plupart des applications. 1000 utilisateurs, c'est aussi beaucoup de données parce qu'on va capter de la donnée un peu partout pour enrichir justement le service en mettant de la personnalisation, de la recommandation, mieux offrir différents services à vos utilisateurs. Et enfin, le cloud computing avec Azure en particulier va permettre d'avoir beaucoup plus de flexibilité dans l'utilisation de nouvelles technologies pour des briques spécifiques et remplacer des serveurs mainframe par plein de VM. Un exemple très concret de modèle de données un peu plus flexible, c'est remplacer une jointure sur une vingtaine de tables SQL par un simple document qui vient dénormaliser toute la donnée dans un seul document. Donc en termes de lecture et d'écriture, au lieu de requêter 20 tables, on va simplement faire une mise à jour sur un document. Je vous laisse imaginer le gain en performance pour des applications qui en ont besoin, au détriment bien sûr du stockage de données, mais le disque, ça coûte pas cher. De la même façon, le côté un peu scale out plutôt que scale up, donc le fait de rajouter d'autres serveurs d'ajouter des nouveaux nœuds à un cluster distribué, c'est quelque chose qui est très facile, qui est natif sur la plupart des systèmes NoSQL, alors que pour un monde SQL, on était obligé d'avoir un plus gros serveur, et c'était compliqué. Donc concrètement, quand on en vient aux différents cas d'utilisation, aux différents typologies de bases de données NoSQL, il y a principalement quatre familles, ce qui est clé valeur, vous avez vu tout à l'heure Redis avec Thomas. Tout ce qui est base de données orientée document, donc MongoDB qui est parmi les plus connus, Couchbase, Elasticsearch, je crois aussi que vous en avez parlé tout à l'heure. Ce qui est orienté colonne, l'un des plus connus, c'est Cassandra, utilisé par plein de boîtes. C'est très très bien. Et enfin, les bases graphes, Neo4j, OrientDB, Titan, principalement. En termes de clés valeurs, l'idée, c'est qu'on a une énorme HMAP distribuée. On laisse l'intelligence du choix de la clé à l'application et on va avoir des applications très très simples, savoir put, get et delete sur cette HMAP. Concrètement, nous, on a utilisé alors Couchbase qui est plutôt considéré comme une base de données orientée document, mais je le mets en cas d'utilisation d'une base clé valeur dans l'utilisation que nous on en a fait chez Alchemix. Savoir que quand on affiche cette page sur Marmiton, Marmiton, c'est 25 millions de pages vues par mois avec des pics de trafic autour de midi et 18h. On avait vraiment besoin de rajouter une couche de cache distribuée très très performante par-dessus notre système précédent. Donc concrètement, un appel à notre API, ce que ça donne, c'est qu'on a un contrôleur qui vient récupérer l'ensemble des paramètres de la page. Donc le website, l'enseigne qui a été choisie et donc la quantité. Et on va simplement faire un get sur une donnée qui est déjà persistée, qui est persistée dans la base. Et si elle n'a pas été persistée, on va le calculer une fois et la remettre en cache. Donc ça a permis de passer de performance d'une requête qui prenait plus de 100 millisecondes sur une table relationnelle avec plein de jointures à quelque chose qui est de l'ordre de quelques millisecondes. Donc l'intérêt de Couchbase, vous voyez, c'est qu'il y a une belle interface graphique. Possibilité d'ajouter plein de nœuds à la volée, ça fonctionne très 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 bien. Quand on regarde les bases de données orientées documents, c'est comme une base de données clé valeur, sauf qu'en fait la valeur c'est un document, soit du JSON, du XML, du BSON pour MongoDB. Les tables viennent des collections, on a à la différence près qu'en fait l'ensemble des documents dans votre collection n'a pas forcément les mêmes champs. Ce qui va permettre en fait de faire des évolutions de schémas À savoir que l'ensemble des données que vous collectiez avant, vous pouvez les conserver et en fait simplement agréger d'autres données dans les nouvelles données que vous utilisez, sans avoir modifié, faire des grosses migrations sur l'historique de data. Et la grosse différence par rapport à ce qui est clé valeur, c'est la capacité de faire des requêtes basées sur le contenu. Un exemple très particulier de requête sur le contenu, c'est en fait c'est quand vous faites une recherche dans un moteur de recherche, donc typiquement avec Elasticsearch, qui est une base orientée documents distribués, vous avez la capacité en fait d'indexer au moment où vous enregistrez le document d'une certaine façon sur certains champs. En fait, au moment où vous faites la requête, vous allez savoir que vous tapez directement « donne-moi tous les documents qui ont un magasin qui correspond à tel identifiant ». Et donc, vous allez avoir une capacité de recherche très, très importante. Typiquement, avec Elasticsearch, on l'utilise pour tout ce qui est un moteur de recherche géographique. Typiquement, quand il y a un utilisateur qui arrive sur Marmiton, on va lui montrer le bon store, donc le bon entrepôt avec les bons prix et les bonnes disponibilités. Donc là, pour ça, on fait une requête sur un index géographique sur Elasticsearch. Un autre cas d'utilisation, c'est tout ce qui est monitoring sur notre plateforme. Tous les événements qui vont arriver du point de vue applicatif, on va les enregistrer et on va les indexer donc avec un timestamp, avec des filtres, avec tout un tas de choses. Et ça marche très très bien avec Logstash, Kibana et Elasticsearch. Un aperçu de ça, c'est typiquement l'ensemble des appels sur une API filtrés en fonction des réponses que votre web server a données, en fonction des différents nœuds. Donc il y a plein de possibilités. Vous voyez en bas à gauche les filtres et puis un beau graphe avec les deux pics de trafic qui correspondent aux heures de entre midi et 2 pour Marmiton et entre 18h et 20h. Les bases de données orientées colonnes, ça ressemble à des bases SQL de très haut niveau, mais en fait il y a un nombre de colonnes qui est dynamique. Ça permet plusieurs choses, notamment de ne pas avoir des valeurs nulles en fait, dans vos colonnes et surtout d'ajouter des colonnes à la volée. Un exemple, une base qui est assez connue, c'est Cassandra, qui a tout un tas de caractéristiques très intéressantes, mais en particulier le fait que c'est très robuste, aux pannes, tolérant aux failures, donc haute disponibilité, et avec une consistance qui est réglable. Il n'y a pas de join par rapport à une base de type SQL. Du coup, vous avez besoin de tout agréger et en fait d'avoir un modèle de données qui est complètement dénormalisé en fonction de l'application que vous en avez. Notre usage de Cassandra chez Alchemix, c'est principalement de ce qu'on appelle les time series. Donc en fait, c'est des évolutions de points de données en fonction du temps. Typiquement, l'analytics, qu'on va utiliser pour l'analytics et le reporting. Vous allez pouvoir avoir un modèle de données qui convient particulièrement lorsque vous voulez compter le nombre d'appels sur une API qui évolue en fonction du temps. Ça, c'est un exemple, le nombre d'affichages d'un certain type de produit pour un certain type de marque en fonction du temps, avec plusieurs granularités, que ce soit de l'heure, du jour, du mois, de l'année. On l'utilise aussi pour stocker des matrices utilisées pour faire de la recommandation et comme back-end de stockage pour Titan. Je vais y revenir. Un exemple très simple de ça, donc avec mon exemple de comptage d'appels sur des API, vous voyez que la primary key, en fait, c'est un peu c'est l'identifiant de votre row. La date, c'est l'identifiant de votre colonne. Et en fait, avec un modèle comme ça, vous allez pouvoir requêter un seul row sur un range de date et avoir l'ensemble des informations qui vous intéressent, à savoir la quantité qui est la métrique que vous êtes en train de monitorer. Et avec ça, vous pouvez faire très simplement des graphes qui tracent l'évolution de vos appels à vos API en fonction du temps. Il y a time series, c'est vraiment un terme générique. Il y a vraiment plein d'utilisations. Nous, on a beaucoup d'utilisations de tout ça. On en vient au graphe. Vous allez utiliser un modèle orienté graphe dès que les relations sont en fait primordiales dans votre modèle de données et que vous avez en fait un domaine métier qui est très, très interlié, on va dire. Typiquement, nous, on utilise le graphe pour tout ce qui est modèle de données produits. On va représenter toute la donnée produit en termes de nœuds et de relations entre ces nœuds. Chacun des nœuds étant lui-même donc relié par des relations qui sont toutes typées. Et on va avoir en fait un modèle de données qui est très très puissant. Un exemple, une bouteille de lait, ce que vous appelez une bouteille de lait, en fait, pour nous, c'est un pack de 6 Lactel. C'est relié à la marque qu'il crée, donc Lactel, c'est relié au concept de lait de vache, c'est relié du coup à la vache, c'est relié à la white qui est la couleur, c'est relié à lactose qui est un des ingrédients. Donc on a plus de 1000 descripteurs produits pour certains produits. Du coup, on a vraiment un graphe qui est très très dense et qui va nous permettre d'avoir un modèle de données très très grande qualité pour faire tous les applicatifs, que ce soit de la substitution, du moteur de recherche que j'ai évoqué précédemment. En termes de base graphe, il y en a principalement une qui est connue qui s'appelle Neo4j. Nous, on n'utilise pas ça. On utilise quelque chose qui s'appelle Titan, en fait, qui a un moteur de graphe distribué et qui fait confiance à Cassandra et à Elasticsearch pour faire la partie stockage et la partie index. Donc Titan va juste être focus sur le côté un peu nœud et relation et comment optimiser le stockage du coup dans Cassandra et comment optimiser l'indexation avec Elasticsearch. Typiquement, la façon dont Titan stocke ses relations dans Cassandra, c'est qu'en fait, la clé primaire de la rangée, ça va être le nœud. Et en fait, chacune des relations va être dans une colonne différente. Et du coup, vous êtes capable, quand vous récupérez un nœud, d'avoir directement, très facilement, toutes les relations qui sont déjà préchargées, parce qu'en fait, elles sont dans la même rangée. Donc, la donnée dénormalisée, parce que de la même façon, la relation elle-même est liée à d'autres produits, enfin, à d'autres nœuds. Et du coup, vous avez un modèle qui est dénormalisé, mais qui est optimisé pour ce cas d'utilisation. Concrètement, qu'est-ce que ça donne? Ça donne des choses comme ça. Donc là, c'est une petite visualisation avec D3JS, mais vous avez les produits en bleu, les concepts en jaune, les marques, c'est les losanges. Et au milieu, vous avez un utilisateur en rouge qui est relié à toutes les interactions avec les produits qui sont eux-mêmes reliés. Typiquement, à droite, vous avez les organiques, le concept de bio. Et vous voyez que l'utilisateur est plus ou moins lié au concept de bio grâce aux relations qu'il relie via l'intermédiaire des produits. Les relations donc en fait sont vraiment au cœur du modèle. Là où vous aviez avant dans un modèle relationnel des tables de jointure dans tous les sens qui du coup impliquent du calcul en plus, dans le graphe vous avez vraiment la relation qui est au cœur des liens. Et concrètement en Python comment ça se passe? C'est la différence d'un ORM classique. Quand je pars de la marque et je regarde l'ensemble des produits qu'elle crée, en fait, ça me renvoie un dictionnaire dont les clés sont les relations et les valeurs sont les produits. Donc les clés sont les relations et les valeurs sont les nœuds. C'est un changement de paradigme qui n'est pas évident. Pour faire ça, nous, on a développé une librairie open source qui s'appelle GraphHashimi. Donc je vous invite à contribuer si vous aimez bien les graphes et Python. Enfin, pour revenir sur l'architecture globale, pour vous redonner un petit aperçu, vous voyez qu'on utilise pas mal de techno. Encore une fois, on n'a pas tout décidé au départ en se disant, OK, on va utiliser ça pour telle brique, ça pour telle brique. C'est vraiment une évolution qui s'est faite sur le long terme. Et en fait, je pense vraiment qu'il faut utiliser la bonne base de données pour le bon cas d'utilisation, savoir vaut mieux utiliser typiquement la bonne base de données en fonction du use case que vous avez. Et ça réduit énormément la complexité du code applicatif, ça réduit la maintenance et vous gagnez du temps et du coup de l'argent. Voilà, donc je vous remercie. Si vous avez des questions, je ne sais pas comment ça se passe. Mais...
Merci Antoine. Je n'ai pas du coup peut-être prendre une ou deux questions à la volée. Oui. Alors, si vous avez des questions, allez-y, n'hésitez pas. C'est vrai que c'était dense, il y avait beaucoup de moteurs différents, mais c'est aussi ça qui est intéressant, d'utiliser effectivement le bon pour le bon job. Moi, j'ai une question, tout ça tourne dans Azure?
Alors, tout tourne intégralement sur Azure.
C'est dingue. Bravo. Si vous n'avez pas de questions, on continue et puis on fera une petite session de questions-réponses après.
Super.
Antoine reste dans les parages. Oui, et moi je vais enchaîner sur. Vous avez vu, nos SQL, c'est un monde assez foisonnant, il y a beaucoup de choses. Effectivement, tout tourne dans Azure. Alors, par définition, de toute façon, on peut à peu près tout installer sur des machines virtuelles. Et après, on fait tout ce qui est possible, raisonnablement, pour intégrer ces bases de SQL aussi sous forme de services prêts à l'emploi. Toujours la même idée. On peut tout faire avec des VM. Et puis après, pour tout ce qui est un peu mainstream, on essaie d'avoir des services prêts à l'emploi, faciles à utiliser. Donc, quelques petites actualités de ce côté-là. Au niveau MongoDB, donc on n'a pas beaucoup parlé, ça reste une base très populaire, même si bon, les retours d'expérience laissent à penser que ce n'est pas non plus la formule magique pour tout faire, mais très populaire. Donc on a maintenant deux offres MongoDB as a service. Ça, en fait, c'est l'Azure Store, ça. Du coup, je peux peut-être aller vous montrer. Hein, l'Azure Store, ça marche comme ça, on fait New Store, mais ici, on a des add-ons qu'on a le droit. Donc on en a deux. Maintenant, MongoDB, donc c'est on va dire ExtenGen qui développe MongoDB, qui s'est renommé MongoDB Inc., qui offre son propre service. Donc c'est vraiment le service offert par les gens qui font MongoDB. Donc c'est intéressant à savoir. Et ils vont jusqu'à... Ils ont des très grosses configs. Donc on a ici une config à 5000 euros par mois qui tourne sur 3 nœuds A7 avec 1 Tera de stockage, 56 Go de RAM, etc. Donc ils ont des très grosses configs très hautement disponibles, etc. Et puis on a toujours MongoLab. MongoLab qui est donc une société indépendante de MongoDB mais qui opère donc des clusters MongoDB sur Azure. Eux ont une offre gratuite, ça c'est sympathique. Ils ont aussi des gros clusters, mais ils ont une offre sandbox gratuite avec pas beaucoup de stockage mais qui permet de jouer avec MongoDB. Puis ils ont développé une petite interface web d'administration qui est sympathique. Donc c'est intéressant à aller voir. Autre nouvelle dans le monde NoSQL, on a intégré HBase dans HD Insight. Donc HBase, c'est une base NoSQL qui est particulièrement bien intégrée à Hadoop, même si ça peut être utilisé aussi en dehors, mais c'est essentiellement utilisé dans Hadoop. Donc ça permet en fait de stocker des données dans un stockage structuré plutôt que de les stocker dans des fichiers, globalement, dans des systèmes de fichiers distribués. Et donc on peut désormais créer des clusters HD Insight intégrant une base HBase. Donc aujourd'hui, pour l'instant, via PowerShell, mais bien sûr, ça sera intégré dans le portail, etc. Donc si vous voulez faire du HBase, c'est intégré dans HD Insight. Regardez, faire deux petits zooms sur deux techniques en particulier, encore une fois, il y en a beaucoup, et orienter un peu le discours sur la partie géoréplication. Donc l'idée, c'est de dire, j'ai construit mon site web, j'ai mis un moteur de recherche, etc. Je fais du NoSQL. Et pourquoi? Il y a plusieurs raisons, on l'a vu, la structure de données, le fait d'avoir moins de joins. Il y a une chose que les solutions NoSQL font bien, c'est particulièrement bien, souvent, enfin, pour certaines d'entre elles, c'est de pouvoir créer des clusters géodistribués. Donc avoir une base de données qui soit, je dirais, transactionnellement consistante, et qui soit installée dans deux lieux géographiques séparés. Pour faire quoi? Ça peut être pour faire de la haute disponibilité. Ça peut être pour avoir mon application déployée en deux endroits, une fois en Europe et une fois aux US, par exemple, et avoir des sources de données qui soient identiques des deux côtés, en lecture comme en écriture. Ça me permet d'avoir mon site web, lui aussi, déployé sur les deux plaques géographiques, et ensuite d'envoyer les utilisateurs vers le site le plus proche, donc les Européens, on va dire, sur la plaque européenne, et puis les Amériques sur la plaque US, par exemple. Et pour ça, on a mentionné ce matin, on a un outil qui s'appelle Azure Traffic Manager, qui permet dynamiquement d'envoyer le trafic. Il y a plusieurs façons de l'utiliser, mais une des façons, c'est d'envoyer l'utilisateur au plus près, donc au site le plus près de chez lui, de où il se trouve. Donc l'idée, c'est ça, j'ai mon utilisateur, Traffic Manager, il va sur le site le plus proche, le site écrit sur sa version de la base à lui, donc je suis en Europe, ça écrit sur la base en Europe, et c'est automatiquement répliqué sur la base aux US. Okay. Donc comment est-ce qu'on peut faire ça? Donc là, c'est quand on a le site, il est devenu grand. Une possibilité qui a peut-être pas été encore bien explorée, c'est dans les tables Azure. Donc les tables Azure, finalement, c'est une solution en NoSQL. C'est une solution NoSQL intégrée à Azure, on va dire. Donc qui est spécifique à Azure, je le dis tout de suite. Donc qui est structurée, donc sous forme clé valeur. D'accord. La spécificité, on va dire, des tables Azure, c'est que la valeur n'est pas forcément juste une chaîne, mais c'est un ensemble de properties. Donc ça ressemble à peut-être à un hash dans Redis de clé valeur. On y accède via du REST, de OData, du JSON. Ça monte en charge si on fait attention à bien choisir ses clés. Et puis, on peut stocker ce qu'on veut dedans. Okay. Donc, les tables SQL, ça a été vu et revu pas mal de fois. Ce qu'on a rajouté là-dessus, c'est le GeoRandom Storage. Donc, on en a parlé aussi ce matin. On fait de la réplication automatique de vos données depuis le data center primaire vers un secondaire. Donc, quand vous créez le compte de stockage, vous avez choisi une région primaire dans la liste qui se trouve ici, par exemple. Et automatiquement, on va dire que vous allez avoir un backup, okay, en synchronisation dans la région voisine. Donc, typiquement pour l'Europe, c'est Europe Nord vers Europe Ouest. Donc ça, c'est en dur, vous ne pouvez pas le changer. Et une fois que vous avez fait ça, on va, de façon asynchrone, répliquer les données du primaire vers le secondaire. Okay. Donc c'est asynchrone, donc dans le sens ça ne va pas ralentir votre stockage. Okay, donc les requêtes sont toujours aussi rapides. Par contre, ce que ça veut dire, c'est qu'on le fait dès que possible. Donc la donnée ne va pas être à jour immédiatement dans l'autre data center. Donc ça, c'est bien pour le disaster recovery. Et ce qu'on a rajouté encore récemment, c'est donc l'accès en read-only à la réplique, à la réplica. D'accord? Donc, j'ai mon secondaire, les données sont répliquées. Maintenant, je vais pouvoir lire les données sur le secondaire. Et là, je ne peux pas encore écrire sur le secondaire. Je ne peux que lire. Mais ça veut dire que j'ai déjà quelque chose qui est automatiquement géodistribué et utilisable pour mon application du moment que je gère le fait que sur le secondaire, je ne peux faire que des lectures. Donc, c'est éventuellement consistant. Donc, ce n'est pas répliqué tout de suite. Hein, c'est pas, il peut y avoir plusieurs secondes. Hein, on va essayer tout à l'heure, on va voir combien de temps ça prend, mais il peut y avoir plusieurs secondes. Donc, il faut que l'application soit conçue de façon à savoir que oui, je suis en train de lire sur le secondaire, par exemple. Et donc, je ne peux que lire. Déjà, je ne peux pas écrire. Okay, et il est possible que voilà, les données arrivent un peu plus tard. Donc, si j'ai un site web de contenu, tout ça n'est pas très grave. Hein, s'il a un article sur le secondaire apparaît quelques secondes après le primaire, c'est a priori pas super grave. Et donc, ça permet d'avoir quelque chose qui est automatiquement entièrement géodistribué. Donc, comment ça marche? Donc, je peux avoir accès en read-only à ma copie sur le secondaire. Concrètement, lorsque j'ai activé un compte de stockage pour la géo-réplication, je vais avoir un nouvel URL qui va être mon compte-secondary. Et ça va être l'URL qui me permet d'accéder à mon stockage secondaire. Okay? Donc ça, c'est créé automatiquement pour vous dans le portail. Donc vous pouvez prendre un outil. Au lieu de mettre mon nom de compte, vous mettez mon nom de compte secondaire et vous allez vous connecter à votre secondaire. Et vous allez pouvoir le lire comme n'importe quel compte de stockage. Okay? À part que vous ne pouvez pas écrire dedans. Et que les données arriveront au fur et à mesure que ça synchronise avec le primaire. Donc du coup, dans votre application, c'est vous qui choisissez. Vous vous connectez au primaire, vous avez lecture-écriture, vous connectez au secondaire, lecture uniquement. Si vous utilisez le SDK.NET, on a des fonctions qui vous aident à choisir ça. Donc typiquement, quand je crée un client, lui, il est capable d'aller voir s'il y a un secondaire ou pas. Et après, vous pouvez lui dire, je veux interagir uniquement avec le primaire, ou alors uniquement avec le secondaire, ou alors je veux bien que tu essayes plusieurs fois le primaire, et si ça échoue, alors tu vas voir le secondaire. Ça, c'est évidemment assez intéressant. Donc du coup, il y a des nouvelles options dans tout ce qui est retry policy, pour expliquer au client qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse exactement. Est-ce qu'il faut qu'il réessaye deux fois le primaire? Est-ce qu'il faut qu'il réessaye une fois le primaire, puis ensuite passer sur le secondaire? Ça, on peut le régler. Donc là, on peut avoir un basculement relativement transparent. Au niveau de l'authentification, on utilise les mêmes clés. Donc la clé que vous avez utilisée pour le primaire marche aussi pour le secondaire. On ne peut écrire que sur le primaire. Quand je dis sur le primaire, j'ai une consistance. C'est-à-dire que j'écris quelque chose, je peux immédiatement le lire. Okay, j'écris une clé, je la relis, je l'ai tout de suite. Sur le secondaire, la clé, elle arrivera plus tard. Par contre, ce que je peux faire, c'est demander au stockage quand est-ce qu'il a synchronisé pour la dernière fois. Donc, je peux savoir où est-ce qu'il en est de sa réplication. Je veux savoir s'il a répliqué il y a 5 minutes ou il y a 2 secondes. Et donc, avoir une bonne idée de où en est la réplication et si mes données sont à jour. Et je peux avoir des métriques séparées par compte. Alors, à quoi ça ressemble avec le framework, donc avec la dernière version. Donc là, j'utilise la version 4 de la Storage Client Library, mais qui inclut toutes ces options. Donc là, l'idée, c'est que je vais me connecter à mon stockage primaire, d'accord. Donc là, je vais simplement utiliser une chaîne de connexion classique, hein, avec mon nom de compte et ma clé. Ok, donc je me suis connecté comme d'habitude à mon stockage, j'ai rien fait de spécial. Et donc, sous-entendu, je suis connecté au primaire. Hein, par défaut, je suis connecté au primaire, c'est ce qui se passait déjà avant. Je vais me connecter à une table, enfin créer une table si elle n'existe pas. Je recommence parce que là c'est fini. Tchac. Voilà, donc je vais créer une table, etc. Je vais récupérer un nombre aléatoire et je vais simplement écrire 3 lignes dans mon primaire, okay, avec les 3 prénoms là, et mon public, c'est ça, avec mon ID 849. Donc je vais écrire 3 lignes avec 849 pause pour changer de micro. Donc j'essaie encore un tout petit peu avec celui-là, mais juste je montre que ici pour écrire, je voulais juste montrer l'API Dynamic Table Entity. Donc c'est simplement pour signaler que les tables telles qu'on les utilisait depuis l'origine. Merci beaucoup. Merci cher ami. Donc on a souvent montré l'API des tables qui s'appuyait donc sur des POCO, enfin des objets. Et donc, du coup, on stockait ces objets dans les tables, ce qui faisait que finalement, on stockait toujours le même type d'objet dans les tables. Alors, c'est pas obligé. Les tables Azure permettent d'avoir quelque chose de complètement schemaless et de stocker à peu près n'importe quoi dans n'importe quelle des rangées de ma table. Superbe. Et donc ça, on fait ça avec une dynamique table entity. Donc on n'a pas d'objet, on n'a pas de schéma fixe, on crée une entité, on lui met des propriétés sous forme de chaîne, d'int, etc. On fait ce qu'on veut, et puis on l'insère. Okay. Et donc ça ressemble à ça. Il va me dire, j'ai inséré un truc avec un ID. C'est de bonne humeur. Et c'est juste si j'ai le réseau. On va laisser 2 secondes. Ok. Oui, il a réussi, fantastique. Il ne m'a rien mis. Je fais F5. Voilà, j'ai écrit 3 chaînes avec 849, etc. C'est parti dans le primaire. Ensuite, j'ai dans mon client, dans Default Request Options, un nouvel attribut qui est Location Mode. Et là, je peux lui dire, si je veux passer, donc je peux changer le client de compte de stockage. Et là, en l'occurrence, je passe sur le secondaire uniquement. Donc je lui dis maintenant, tu changes de connexion, tu te connectes au secondaire. Il s'exécute, parce qu'il est sympathique. À partir du moment où je suis sur le secondaire, j'ai accès à cette nouvelle API, GetServiceStat, qui va me permettre de voir où en est la réplication. Donc, je ne sais pas si on voit ici, la réplication, elle est live, que la réplication est live et qu'elle a été synchronisée à l'heure UTC, là, 1:38. Donc, il y a 2 minutes. Okay. Donc déjà, avec ça, je peux savoir où on est la réplication, je peux attendre éventuellement ici, je peux faire des choses. Et ensuite, dans mon petit exemple, je boucle. Ok, et j'attends. Bon, là, donc là, je boucle et je relis les mêmes valeurs avec le même client, à part que maintenant, il est connecté au secondaire. Donc, je récupère les valeurs sur le secondaire. Là, ici, ça a déjà été répliqué. C'est pas drôle. C'est pas drôle, donc on va réessayer. Ça a été un peu trop vite. Donc, je recrée 3. Hop, pit, je bascule. Hop, j'attends. Voilà. Donc, là, j'ai toujours 849. Donc, dans mon secondaire, j'ai toujours les 3 lignes que j'ai insérées au coup d'avant. Ils sont toujours là, et paf, là, ça vient d'être répliqué. C'est passé de 849 à 597. Donc, il m'a répliqué les 3 lignes que j'ai insérées dans le primaire, dans le secondaire, en ouais, quelques secondes. C'est assez variable, hein, très franchement. Donc, avec ça, on peut avoir voilà, un début d'infra géodistribué, on va dire très, très simplement. Donc, qui est limité, je le dis, par le fait qu'on est en lecture only sur le secondaire. Alors, si on veut faire un truc plus sophistiqué, il y a des solutions. Notamment Cassandra, effectivement, est fort bien conçu pour ça. Donc Cassandra qui est une solution NoSQL qui a ses propres caractéristiques et qualités, qu'il faut quand même regarder, il ne faut pas le prendre uniquement, je pense, pour la géo-réplication, la géodistribution, hein, parce que la façon de l'utiliser est quand même particulière, mais en tout cas, il a été intelligemment conçu pour les déploiements donc répartis sur plusieurs data centers. On peut sélectionner le nombre de réplicas qu'on veut. D'accord. Donc minimum 3, hein, je pense, mais on peut avoir un nombre de réplicas modifiables dans chaque data center. Et ensuite, on peut dire, pour les lectures ou pour les écritures, quel type de consistance on veut. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut avoir quelque chose qui est comme les tables, éventuellement consistant? Donc j'écris dans le primaire et le secondaire, il suit comme il peut. Ou est-ce que je veux quelque chose qui est entièrement consistant? Quand j'écris sur le primaire, je veux que le secondaire ait la bonne version avant de revenir. Ça, on peut le choisir. D'accord. Pour les lectures et pour les écritures, on peut dire local quorum. Si je veux un quorum, alors en plus c'est un quorum. On n'est pas obligé d'attendre que tout le monde ait écrit. On peut attendre juste 2 sur 3, par exemple, si on veut. Et ça, c'est réglable aussi. Donc on peut avoir un quorum local ou alors un quorum global sur l'ensemble des nœuds du cluster géodistribué. Donc ça permet vraiment de régler le truc exactement comme on veut. On peut régler le niveau de consistance comme on le souhaite. Donc comment est-ce qu'on fabrique ça dans Azure? On profite d'une nouvelle fonctionnalité qui sont les VNet, la connexion de VNet régionaux. Donc on est capable de connecter 2 VNet, ici un en Europe et un aux US, entre eux, pour faire en sorte que toutes les machines qui sont dans ces 2 VNet se voient automatiquement dans une plage d'adresse IP compatible, on va dire. Donc je vais créer un VNet en Europe, je vais déployer 3 nœuds en Europe, un VNet aux US, je vais déployer 3 nœuds aux US, et ils vont se voir directement sans avoir à passer par des endpoints externes, ce qui va me permettre de constituer mon cluster. Donc ça, c'est la partie Cassandra. Je vais peut-être le montrer ici, c'est peut-être plus visible. Donc ici, j'ai mes VNet, d'accord, un en Europe, un aux US. On va voir si aujourd'hui les VM s'affichent. Non. OK. Et ensuite, j'ai des VM, les VM Cassandra. D'abord, elles sont là. OK, donc ici j'ai trois nœuds. J'ai trois nœuds en Europe ici. Trois nœuds en Europe ici et trois nœuds aux US ici. Ça, c'est mes, c'est mon cluster Cassandra qui est réparti en deux régions. Okay. Et ça, c'est bien d'avoir un cluster Cassandra réparti en deux régions. On est content avec ça. Mais c'est mieux si on a un site web pour lui parler. D'accord. Donc pour ça, j'ai démarré deux autres VM, une en Europe, une aux US également. Donc je les montre, elles sont ici, elles sont là. Web1x1 et Web1x2, idem, dans chaque région. Et là, l'idée, c'est que chaque VM, évidemment, parle à son bout du cluster. Donc, ma VM en Europe écrive sur le cluster en Europe. D'accord ? Et donc, j'ai deux URL et je peux aller sur l'un ou sur l'autre. Bon, c'est super. Et après, pour rendre tout ça transparent pour l'utilisateur, pour pas qu'il ait à savoir sur quelle URL taper, évidemment, je vais utiliser Traffic Manager. Donc, Traffic Manager, ça permet de déclarer des endpoints. Donc, je crée un URL qui est en l'occurrence cqldemo.trafficmanager.net. Après, évidemment, on peut mettre son DNS dessus. Et dedans, je mets des endpoints. Donc, ici, j'ai déclaré que j'avais deux endpoints, c'était mes deux VM. Donc, ce Traffic Manager va répartir le trafic sur ces deux VM-là. Okay. Si je veux en rajouter, je peux aller ici, faire ajouter ici, Cloud Service. Et vous voyez qu'il me propose tous les Cloud Services. Donc, ici, c'est les deux que j'ai sélectionnés. Donc, si j'avais d'autres serveurs web, je pourrais les ajouter et les rajouter dans le pool de Traffic Manager. Et une fois que j'ai fait ça, Traffic Manager, je peux lui dire comment répartir le trafic. Et oui, parce que jusque-là, il sait quoi répartir hein, quand je tape sur SQL Demo comme ça. Mais comment faire? On a plusieurs choix. Moi, j'ai mis Round Robin. Donc, je veux qu'à chaque fois, il passe de Web1 à Web2, Web1 à Web2, d'accord? Mais je préfère failover, ou le plus important, enfin le plus utile, je pense, une fois que vous avez mis au point tout ça, c'est le mode performance. La Traffic Manager va automatiquement router votre utilisateur sur le serveur le plus proche. Donc s'il est en Europe, en Europe, s'il est aux US, aux US, et s'il est ailleurs dans le monde, il va faire un ping, il va calculer, il va trouver le moins mauvais, probablement, si on est loin. Donc ça, c'est la vue globale du truc. Alors, un cluster Cassandra, ça ressemble à ça, donc ça ne va pas forcément vous parler énormément comme ça, mais on voit qu'on a un data center 1 et un data center 2. Donc, Cassandra, il a une notion des data centers. Hein, il est capable de dire ces trois machines-là, elles sont dans un data center, ces trois autres-là dans un autre. C'est important, on va voir, pour pouvoir se connecter au bon endroit. Et chaque cluster est constitué de trois machines, en l'occurrence, qui sont au taquet. Donc, une façon de faire, c'est de faire un insert avec CQLSH, quelque part par là, faire un select de l'autre côté pour voir. On va essayer d'illustrer ça avec quelque chose de plus visible. Donc si je veux faire un site web maintenant qui se connecte à ma base Cassandra, encore une fois, la seule subtilité, c'est qu'il faut que je me débrouille. Alors j'ai envie d'avoir le même code des deux côtés, enfin le code le plus identique possible. Je veux juste me débrouiller pour me connecter à mon cluster local, Cassandra local. Donc on a vu que chaque cluster, chaque bout du cluster avait un nom, un ou deux. Donc ici, dans mon client, alors j'utilise un client Python, donc c'est la librairie Python pour connecter au cluster. Il y a une option Load Balancing Policy, comment est-ce que le client se connecte aux différents nœuds du cluster. Et ici, j'en ai une qui est DC Aware. Donc je lui dis, tu te connectes à n'importe quel nœud, mais tu préfères le DC numéro 1, donc qui est le DC sur lequel se trouve le web. Donc il va préférer se connecter à ces nœuds locaux, parce que ça ira plus vite. S'il n'y arrive pas, il ira voir sur le data center. Mais de préférence, il va sur les nœuds locaux. Donc comme ça, il sera au plus près. Et après, une fois que j'ai fait ça, c'est tout ce qu'il y a à faire. Après, je ferai un select étoile et j'affiche. Donc, je vous ai mis le code dans un petit coin. Après ça, c'est transparent. Je peux agir comme je veux. Quand j'écrirai, ça sera appliqué de l'autre côté. Alors, on peut essayer de regarder ça avec ici mes deux, dont j'ai mes deux sites web. Donc, vous voyez ici que j'ai le même URL de l'autre côté. Ah ouais, il marche plus zoom, évidemment. Il n'est pas content. Yeah. Ok, donc j'ai le même URL, là, SQL Demo ici, et SQL Demo ici, à part que lui, il va sur Web X2X1, et l'autre va sur Web X1X1. Donc là, Traffic Manager, il m'a automatiquement ouvert ces deux sessions, une d'un côté, une de l'autre. Alors, c'est pas super facile à simuler, parce qu'il y a du cache partout, etc. Mais si on fait avec un curl, là, un petit curl, on voit généralement quand même pas mal de... Ah, c'est pas celui-là, c'est ce zoom-là que je veux. Celui qui me permet de taper. Ah, si je fais des curls comme ça, ah, Web1x1, ouais, j'ai pas de bol. Là. Ah, typiquement, j'ai pas de bol. Hein. Pourtant, j'en ai eu un, hein, des Web2x2. C'est trop gros. Vous voulez plus gros? Bon, ça marche pas. Bref, Au-dessus, j'en ai eu. Ça dépend des caches, etc. Donc, comme je suis en round robin, c'est pas super exact. Et donc là, je lis sur ma base Cassandra locale. Et ici, j'écris sur le cluster local. Donc, je vais écrire static 80 lieu 90. Ça va écrire sur le côté cluster 1. Et ici, si je rafraîchis de l'autre côté, je suis bien sur mon cluster 2 et j'ai bien récupéré ma valeur ici. Donc là, on est dans un mode et je peux faire la même chose de l'autre côté. Je suis en lecture-écriture. Donc, il y a plus de boulot, clairement, que pour une table Azure où il n'y a rien à faire. Mais là, je suis en mode lecture-écriture géodistribué des deux côtés. Il a fallu que je monte le cluster 4 endroits, mais moyennement, de manière quoi ça. Enfin, d'ailleurs, ce n'est pas moi qui l'ai monté, c'est Benjamin ici présent, mais comme quoi ça marche. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer rapidement sur le cluster Cassandra.